France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue en compagnie d'un monument de l'art contemporain, le plasticien Daniel Buren, est l'un des artistes les plus importants de la scène française et internationale. Ne le cherchez pas dans un atelier, Daniel Buren n'en a pas. Il travaille in situ, comme il le dit souvent. On se promène parmi ses colonnes dans la cour d'honneur du Palais Royal, on est entré dans ses cabanes éclatées, on a admiré ses installations dans une multitude de lieux, de la rue au Grand Palais. Il a reçu en 1986 le Lion d'Or à la Biennale de Venise. Daniel Buren décline les bandes verticales, les couleurs, les miroirs, les formes et innove à chacune de ses variations. Prolifique, il vient d'inaugurer une pergola permanente à Conflans-Sainte-Honorine et de clôturer une magnifique exposition « Fare, disfare, rifare » à Pistoia, en Italie. Il a choisi d'être le mentor d'un jeune artiste canadien, Miles Greenberg, dans le cadre du mentorat Reifers, et à partir du 13 octobre, il dévoilera ses œuvres au Grand Palais pendant Art Basel Paris 2025. Alors, on reste in situ, en conversation avec Daniel Buren. Bonjour Daniel Buren.
Bonjour Élise.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand honneur de discuter avec vous ici dans le studio des Midis de Culture. Alors j'ai lu pour préparer cette discussion les échanges très intéressants que vous avez eus avec Jérôme Sang dans un livre qui s'appelle « Au sujet de points de suspension » publié chez Flammarion. Et j'ai appris que, si vous vous êtes bien sûr intéressé très tôt à la peinture, votre première passion c'était le cinéma. C'était une vocation et vous êtes parti en 1959 à Mexico City avec votre frère et l'un de vos meilleurs amis dans l'optique de faire un film. Pourquoi le cinéma, Daniel Buren? Et puis pourquoi finalement vous y avez renoncé?
Je sais pourquoi j'y ai renoncé. Pourquoi, c'est plus difficile à répondre. J'ai renoncé à l'époque quand j'ai commencé à comprendre ce que ça demandait comme type de caractère et il m'a semblé que j'avais pas ce caractère. C'est-à-dire d'essayer de pouvoir faire une chose que vous avez envie de faire, mais pour la faire, il faut un minimum d'argent qui est relativement considérable, surtout à l'époque et surtout pour moi, qui n'avais pas de moyens économiques du tout. Et qu'il fallait donc non seulement approcher des gens capables de s'intéresser à ce que vous vouliez faire, mais en plus d'avoir le culot de parler de quelque chose qui est dans l'imagination, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et en plus, l'impression d'essayer de vendre quelque chose qui n'existe pas et qu'il faut convaincre des gens pour ça. Et je pense que je n'étais pas, je suis toujours pas d'ailleurs, du tout fait pour ça.
Le fait de vendre et convaincre.
De vendre, parce que c'est bien le but de l'histoire, c'est qu'on vous donne et qu'on vous fasse confiance et qu'on paye la fabrication d'un film. Et même modeste, c'est toujours d'ailleurs très cher. Ça a changé. Quand je dis c'est toujours, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire, par exemple, on peut assez facilement pouvoir faire une espèce de brouillon de ce qu'on a envie de faire et le montrer. Donc on a déjà la possibilité de pouvoir travailler sur des images, montrer un peu ce qu'on aimerait faire avec un peu plus de moyens à un possible producteur. À l'époque, tout ça n'existait pas. Donc il fallait vraiment discuter et convaincre d'une idée dont on ne pouvait rien montrer du tout. C'était pas un croquis qui allait aider la possibilité de trouver que cette personne-là qu'on connaît pas va nous faire des images très intéressantes avec un son comme il faut, etc. Et ça m'a semblé insurmontable. Donc je l'ai pas surmonté. Je me suis tout le temps intéressé au film et j'en ai fait des petits. J'ai participé même à la toute première galerie qui avait immédiatement ouvert sa galerie à quelques artistes pour essayer les premiers films en vidéo. Et elle ne faisait que ça. C'était une galerie allemande, il s'appelait Gerichum, qui a disparu depuis. Donc ça m'a toujours suffisamment intéressé pour m'immiscer dans certains circuits où j'ai pu utiliser l'image en mouvement, le film, enfin, finalement. Et dans la mesure où aujourd'hui c'est à la limite à la portée de tout le monde, on peut toujours essayer de s'amuser avec l'idée du cinéma ou l'idée des images qui bougent, etc., etc. Donc ça m'intéresse toujours, mais je n'en ai pas fait du tout le point central qui, je croyais, pouvait s'ouvrir pour moi, et j'ai donc abandonné.
Vous n'aviez ni envie de convaincre, ni envie de négocier, j'ai l'impression.
Je pense que vous avez raison. Je pensais que c'était très difficile de convaincre, puisqu'il n'y a que des arguments, disons, parlés, pour quelque chose qui est peut-être parlé, c'est même pas évident, mais en tout cas qui dépend surtout de l'image, du mouvement, du son, des choses comme ça, qu'il faut parler de quoi. Pour moi, c'est très compliqué, parce qu'il me semble que je préfère des choses beaucoup plus déjà concrètes. Et si on peut montrer quelques images, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la vidéo, je pense qu'on peut plus facilement convaincre, soit en bien, soit en très très mal, une personne qui dira « je peux vous aider, on va faire quelque chose d'un peu plus consistant ». Avant, c'était des paroles. Et je pense que ceux qui ont réussi à faire ça, d'ailleurs, de très grands cinéastes, avaient cette qualité que je n'ai pas.
Vous étiez allé au Mexique avant l'expérience du tournage de 1959. C'était en 1957, vous profitez de la bourse Gelidja qui avait récompensé votre rapport sur la peinture de Cézanne à Picasso en Provence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert là-bas au Mexique et ce qui s'est passé pour vous sur le plan artistique ?
J'ai découvert, c'était donc après ce voyage dans le fond de la Provence avec les artistes qui y habitaient et ceux qui l'avaient habité et produit même une grande partie de leur œuvre, comme je l'avais donné dans le titre, de Cézanne à Picasso, ce qui était un titre abrupt, mais qui finalement faisait une boucle. Au Mexique, c'est bien plus encore une découverte d'un pays que j'ai trouvé absolument, ce que j'en ai vu, extraordinaire, et où, avec mes deux amis, on a tourné des morceaux de films en 16 mm, à peu près de Mexico, à peu près, pour prendre le nord, jusqu'au sud, à la frontière du Guatemala. Et j'ai découvert ce qui était en partie visible. C'était en plein au milieu de la découverte de ce qui commençait à être aperçu dans la forêt vierge. Enfin bref, c'était véritablement extraordinaire la richesse culturelle de ce pays, qui aujourd'hui d'ailleurs est encore plus, d'une certaine façon, plus riche et plus mystérieuse encore, puisqu'on a découvert des milliers de choses qu'on n'imaginait pas dans toute la partie couverte de forêts, grâce à de nouvelles techniques de photographie qui ont découvert des villes entières qui changent beaucoup de choses sur ce qu'on connaissait à l'époque du Mexique, à savoir par exemple qu'ils avaient un grand centre qui était ce qui est devenu Mexico City, mais ça c'était un endroit relativement pas modeste mais important, mais d'un centre gigantesque où il y avait des millions de personnes. Et cette découverte assez récente qu'il y avait plus de 10 millions de personnes en fait l'un des endroits les plus peuplés du monde à l'époque où ces gens vivaient et qui ont complètement disparu puisque ça a été enfoui sous la forêt vierge et qu'on commence tout juste à voir, il faudrait des centaines d'années pour essayer de voir tout ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est un pays qui est fascinant dans sa vie quotidienne et qui a une histoire que j'ai trouvée passionnante et qui m'intéresse toujours. Quand je tombe sur des nouvelles découvertes ou des articles, etc., j'avoue que je suis toujours fasciné par ce qu'on découvre et ce qu'on dit sur ces retrouvailles qui changent beaucoup de choses. Moi, je me souviens de ce qui était sûr, pas sûr, parce qu'on ne l'est peut-être jamais, mais ce qui était clair en 1957, et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est il y a des choses qui ont vraiment bousculé. Le fait qu'on ne savait pas à l'époque que les civilisations entières comme les Mayas ou comme les Aztèques, en fait, ils avaient un rapport déjà, même s'ils étaient souvent en guerre jusqu'à l'extinction parfois, ils avaient des rapports commerciaux sur toute l'Amérique du Nord, donc du Mexique, et jusqu'en Amérique du Sud. Des choses absolument fascinantes.
J'ai l'impression que pendant ces jeunes années, ces années de formation, vous avez préféré apprendre en allant, en partant en voyage, que ce soit en Provence, dont vous parliez de ce voyage en Provence, ou au Mexique ou ailleurs, plutôt que apprendre sur les bancs de l'école. Je crois que vous étiez inscrit, alors d'abord à l'École nationale des métiers d'art à Paris, puis aux Beaux-Arts, et vous êtes viré des Beaux-Arts, en fait, pour, qu'est-ce que j'ai noté, absence continuelle.
Bah oui, je suis resté 4 ans, c'était ce qu'on tolérait, pas à tout le monde d'ailleurs, quand on n'avait pas suivi les cours du tout pendant l'année. Donc j'ai bénéficié d'un sursis militaire de 4 ans et j'ai même pu échapper ensuite au service militaire. Donc ça fait aussi partie d'un moment où j'ai fait beaucoup de choses. Je suis retourné au Mexique et là j'ai vu des choses. Je me suis intéressé à la peinture mexicaine des fresquistes de la Révolution mexicaine. Et là j'ai évidemment vu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui m'ont bousculé et sans doute formé, à savoir par exemple une critique acerbe. Moi je suis parisien, je venais de cette culture occidentale et centralisée à Paris d'une certaine façon, et je lisais que dans les années 25, 30, 35, ils écrivaient des pamphlets contre ce qu'ils appelaient l'école de Paris et contre cet art fustigé comme art bourgeois insupportable, et que le pire endroit, c'était Paris, avec des critiques acerbes. Et ça m'a vraiment posé des questions. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Etc. En fait, il y avait une très grande virulence contre la peinture de Chevalet, et c'est là où ils ont développé les fresques et ce renouveau, d'une certaine façon, puisque la Renaissance avait déjà pas mal fait, de la peinture, on pourrait dire, bien qu'ils n'employaient pas ce terme, in situ. Et je pense que ça a beaucoup marqué ce que j'ai ensuite décidé de faire.
On écoute le peintre David Alfaro Siqueiros parler de son art.
Pourquoi est-ce que nous avons cherché le dynamisme dans l'effort? Pourquoi est-ce que nous avons développé les formes artistiques dans la peinture murale d'une manière plus complète? Pourquoi est-ce que nous avons cherché à faire la composition quand la composition était perdue? On ne peut pas penser, par exemple, voyons les œuvres maîtresses, voyons par exemple Cézanne. Quels sont ses sujets? Les joueurs de cartes, avec deux ou trois personnages qui jouent les cartes. Il a apporté quelques volontés de distorsions et de mouvements, mais d'une manière tellement initiale qu'aujourd'hui, quand on regarde, on doit comprendre que ça a été les commencements. Mais un commencement qui ne s'est pas développé. Parce que le marché a détruit les étapes suivantes dans la peinture européenne. Les a détruits. Alors, quand on sort de la peinture murale, de la peinture des chevalets, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. On est dans la nuit, n'est-ce pas? On ne sait pas comment combiner les mouvements des masses, la relation avec les paysages et l'homme. Comment est-ce qu'on peut structurer, n'est-ce pas, lier les formes humaines avec les paysages? Quand j'étais à Paris, la première chose que j'ai découvert, c'était le marché. Le Rosenberg, n'est-ce pas? Le Breimjeur, n'est-ce pas? C'était qui contrôlait la peinture. Il demandait, par exemple, au peintre, faites-moi 30 peintures. Alors, le peintre s'enterrait dans un petit atelier où il ne voyait pas même la lumière du soleil, n'est-ce pas? S'il était hiver, il ne pouvait pas même voir par la fenêtre. Alors il travaillait comme ça. Tout ça, je l'ai dit à cette époque. Je l'ai écrit. Alors je dis, sortez dans la rue, sortez.
Sortez dans la rue, sortez. Ça vous parle, Daniel Buren?
Ah oui, je ne connais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout cet entretien, non, c'était même gentil comparé à certaines positions écrites qu'ils ont eues tous, Orozco, même Rivera, mais tous d'ailleurs, on voit très bien, dans la mesure où ils parlent très bien le français, qu'ils sont tous venus travailler à Paris, donc ils connaissaient aussi bien quelque chose qui les a heurtés, il en parle un petit peu là, et qui a permis cette révolution même ou ces retrouvailles qui étaient complètement perdues en Europe de la peinture faite sur place, les grandes fresques, etc. Quand j'ai rencontré ça de visu, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, et surtout les raisons. Et ça n'a pas été, pour moi, avec des résultats immédiats dans ce que je pouvais faire, mais c'est certain que ça a fait partie de choses qui ont été macérées, remuées, etc., et qui petit à petit, d'ailleurs de façon très, on pourrait presque dire intellectuelle et naturelle, m'ont fait abandonner la peinture, par exemple. Donc c'est drôle parce qu'il parle que quand il est revenu au Mexique, il cherchait comment abandonner cette idée de peinture de chevalet. Il appelle ça aussi le commerce, et c'est sûr que ça devait être extrêmement visible pour un étranger. Dans les années 30, cette atmosphère et déjà ce marché de l'art qui était surtout à Paris extrêmement puissant pour ceux qui étaient, on peut dire qu'il y avait la chance d'être dedans.
C'est là que vous vous dites, vous, moi je n'aurai pas d'atelier.
À peu près, enfin, il m'a fallu du temps parce que on parle là de 57 et 59 et quand j'ai décidé d'arrêter d'essayer de trouver un lieu un peu confortable pour travailler, c'était en 65. Mais depuis ce temps-là, j'ai effectivement abandonné l'idée de chercher et donc d'avoir un lieu pour travailler avec toutes les conséquences que ça a et qui sont assez considérables si on est sérieux sur ce principe-là, en me disant, dans 2 ans, 4 ans peut-être, je serais très heureux d'avoir un atelier et j'imaginais pas que aujourd'hui, 50 ou plus après, j'irai toujours pas d'atelier.
Il y a autre chose qui se passe aussi, c'est qu'en 1960 puis 1965, vous êtes invité à Sainte-Croix, une île des Caraïbes, pour réaliser une peinture murale dans un hôtel. Et à ce moment-là, est-ce qu'il se joue quelque chose aussi pour vous dans la compréhension de ce que vous avez envie de faire ?
Ah, je pense, oui. Je pense, puisque la première fois qu'on me demande quelque chose d'un peu précis, en tout cas dans le lieu, était très précis. Il s'est trouvé que c'était... J'ai donc fait un travail qui était à la fois pictural, à l'époque, et qui était sur place, et pas à déplacer, et qui se trouvait être très proche du dernier voyage que j'avais fait au Mexique. Donc, quand on voit une photo de ce travail, on voit très vite les influences plastiques que j'ai exprimées à ce moment-là. Et ce que ça m'a permis de faire, que j'ai découvert quand c'était fini, j'ai travaillé presque une année entière sur ces peintures, à tous les jours, sur place, donc, vraiment déjà in situ, c'est qu'après ça, ça m'a libéré entièrement de tout ce qui était, je dirais, en tout cas que je considérais totalement encombrant dans mon cerveau. Donc j'ai plus jamais touché ni au portrait, ni à la figure, ni aux animaux. J'ai plus jamais dessiné des choses comme ça. Donc ça a vraiment décapé mon travail. Et petit à petit, assez vite après, 3-4 ans après, ça a été carrément la mise en place de cette idée, j'aime pas dire le mot concept, mais qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur place? Alors là, évidemment, ça amène un tas d'obligations, on perd des choses, et on en gagne d'autres, et je pense que ce qu'on gagne est important puisque je suis encore dans cette démarche, et je pense pas que je sois encore proche d'avoir tout vu.
Et c'est à ce moment-là aussi que vous vous mettez à utiliser les rayures qui vont devenir votre marque de fabrique, alternance de bandes de 8,7 cm de large. Et c'est un motif qui vous attire pour la première fois sur le marché Saint-Pierre à Paris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Daniel Buren ?
C'est-à-dire qu'avant ça, je faisais des peintures, entre guillemets, non figuratives, et où, pour essayer d'atténuer beaucoup de choses dont j'essayais de me débarrasser, le geste, la beauté des couleurs, enfin bref, un tas de choses un petit peu importantes, mais qu'il me semblait qu'il ne fallait plus utiliser de cette façon-là. Et pour faire des bandes qui me semblait une façon de neutraliser la surface, je prenais des masking tape et je peignais ce qui débordait, ce qui était non couvert par le masking tape. Et quand je sortais mon masking tape, j'avais le support qui apparaissait sous la couleur. Et c'était jamais assez clair, assez brut pour moi. Et un jour, j'ai découvert ces bandes que j'avais déjà dû voir 25 000 fois sur les tentures ou les tentures de café à Paris, parce qu'il y en avait presque partout à un moment donné. Et je me suis dit, mais voilà ce que j'essaye de faire pour essayer d'avancer. Et ça existe et c'est beaucoup mieux. Et donc, j'ai commencé à utiliser ces tissus rayés qui étaient des cotons comme support pour faire ce qu'à l'époque, j'espérais, n'était plus vraiment de la peinture. Et il y a donc eu un passage entre quelque chose qui faisait des raies verticales et qui était entièrement peinte, avec l'aide de ces caches qui permettaient de garder le support, à un support déjà rayé, donc c'était fini de faire tout ce travail avec les caches, et qui me permettait de faire quelque chose au-dessus de ça, extrêmement réduit. C'est pour ça que pour moi, ça c'était le degré zéro de la peinture, où on voyait à la fois ce qui était peint, et qui était simple comme bonjour, puisque au début c'était un entourage comme un cadre fait avec une peinture blanche, et ensuite c'était même la bande blanche recouverte de blanc, donc fallait avoir les yeux assez aigus pour voir la différence entre ça et le blanc du tissu.
Et là, vous découvrez, en fait, vous mettez en place l'outil visuel, donc les rayures qui permettent d'ouvrir une brèche dans l'environnement pour dévoiler cet environnement.
Bah, comme d'une certaine façon, il y a aussi une logique qui n'est pas écrite avant, mais qui est visible dès qu'on commence à travailler comme ça. Comme cette logique, c'était un objet fait entièrement, mais neutre, il est certain que très vite m'est apparu que qu'est-ce qui faisait tenir tout ça, c'était le lieu dans lequel cet objet se trouvait. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là, vraiment, j'avais déjà une certaine habitude, une critique du système artistique, surtout à Paris, c'est celui que je connaissais le mieux, et ça me permettait de pouvoir accentuer cette critique sur le lieu. Et le lieu d'exposition pour un artiste, c'est la galerie, c'est le musée. Donc il y a toute une critique qui se fait à ce moment-là sur les institutions et qui me fait aussi déboucher très très vite, n'ayant pas de studio, où est-ce que je peux travailler comme si j'avais un endroit pour moi. La ville de Paris, où je suis né, m'a semblé un lieu idéal et j'ai commencé à travailler directement dans la rue.
Mais oui, vous mettez à faire des affichages, des collages sauvages d'affiches, en fait, à Paris et aussi ailleurs.
Oui, bah, au début, c'était surtout Paris. Et effectivement, c'était possible grâce, pour moi, ce qui était cet objet neutre qui avait les qualités, justement, de ne pas venir faire une représentation, qu'elle soit d'image ou qu'elle soit d'objet géométrique ou autre, et qui passait quand même comme étant vraiment neutre. Tout ce que j'ai fait comme ça, enfin, faut quand même le signaler si on a oublié, je pense qu'on a oublié, c'était jamais nommé. Il n'y avait pas une signature quelque part qui disait ça, c'est Daniel Buren ou je ne sais quoi. C'était des bandes rayées qui n'avaient aucune signification, sauf celle que n'importe qui, en voyant ça, pouvait éventuellement mettre dessus, et qui étaient là pour perturber tout un sens entre l'architecture, le mouvement des gens, la publicité. Je me suis régalé quand même à entièrement recouvrir des publicités pour lesquelles j'étais très souvent agressif, puisque je faisais partie des gens qui étaient très 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 critiques sur l'invasion assez horrible, visuellement parlant, de la publicité dans nos villes et autres. Ça n'a pas beaucoup, ça s'est pas beaucoup amélioré. Hein. Mais c'était une façon aussi de dire, bah, écoutez, cette publicité, puisque vous voulez la mettre et qu'il faudrait acheter ce qu'il y a en dessous, eh ben, on va plus voir ce qu'on vend. Et on recouvre, et je recouvrais tout le panneau de bandes rayées qui, elles, et surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce serait plus délicat. On pourrait dire, ah bah oui, je sais, c'est un artiste, s'appelle Buren, oui, c'est très mauvais, etc., tout ce qu'on veut. à l'époque, c'était impossible de mettre un nom, ni même une cause, ni même un rapport avec la peinture ou la non-peinture ou l'art en général. C'était brut de décoffrage.
Brut de décoffrage et avec l'ambition de venir perturber l'environnement pour changer le regard, en fait.
Oui, ça porte, évidemment, et c'était absolument pas dit, parce qu'il fallait surtout pas le dire, je savais simplement qu'il y avait bien une personne sur 1000 dans une grande ville comme Paris qui allait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il y a ça? Après là, en avoir vu 2 ou 3 dans des lieux et des moments différents. Mais c'était tout. Donc moi, j'ai jamais fait de sondage pour savoir qui voyait quoi et en pensait quelque chose. Mais c'est évident qu'on fait quelque chose, d'ailleurs n'importe quoi, dans l'espace public. Et il y a évidemment des gens qui sont les témoins. Parfois, ça peut mal se terminer. Mais ces gens existent toujours, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des gens qui regardent.
Et quel rapport est-ce que vous entretenez avec les musées à partir de ce moment-là, en 1971, au Guggenheim, par exemple? Vous avez un rapport un peu tendu où votre œuvre peinture-sculpture est censurée au dernier moment, juste avant, juste après en fait l'inauguration.
Oui, non, juste avant.
Juste avant
ça,
l'inauguration.
Personne l'a vu.
Personne ne l'a vu. On a des photos.
C'était une vraie censure. Moi, je continuais un peu la démarche que j'avais déjà commencée de façon plus modeste, et étant invité dans ce musée américain, j'avais fait un projet. Ce que je fais très très rarement. Mais j'avais donc fait un projet, donc ils étaient au courant du projet 7 ou 8 mois avant, ils avaient accepté le projet, j'ai confectionné le matériau, parce qu'il était énorme, hein. J'ai confectionné une chose peinte sur tissu qui faisait 20 mètres de hauteur par 10 mètres de large, et je suis arrivé quasiment avec ça à New York sous le bras, et on a fait le montage pendant la semaine précédant l'ouverture. Et quand tout était monté, il y avait une préouverture pour tous les artistes invités. On était une vingtaine d'artistes qui étaient internationaux. Enfin, il y avait surtout des Américains, mais il y avait 5 Européens. Et quand chacun est revenu pour faire ce pré-vernissage avec les artistes, leurs amis, leurs invités, etc., je suis arrivé dans le musée pour voir si tout allait bien, et il n'y avait plus rien. Et il y avait d'autant plus rien que j'avais utilisé ce qui n'avait jamais été utilisé au Guggenheim, à savoir le centre de la grande spirale dessinée par Wright. Et donc, cette grande spirale étant toujours vide, arriver dans ce musée avec la spirale vide ne changeait pas grand-chose à l'habitude. Donc c'était une censure parfaite.
Mais vous vous êtes réconcilié avec le musée Guggenheim en 2005.
Oui, c'est eux qui ont changé. Mais moi, je me suis pas réconcilié, c'était fini, ça, et ça a eu les effets que ça a pu avoir après. Bon, il y avait même une anecdote, parce que j'étais tellement dans le travail et dans la mise en place de cette chose, qui a été d'ailleurs très rapide. On a tendu un câble et on a ensuite accroché cette pièce. Et j'avais pas pris de photo. Et pour essayer de se dédommager, ils m'ont approché dans les jours qui suivaient, en me disant, écoutez, on va faire, après l'exposition, on serait très content, on vous donne une exposition personnelle très courte, et on pourra représenter la pièce. Et je leur ai dit oui. Et j'ai profité de ce moment pour faire des photos. Et dès que les photos étaient faites, j'ai dit, non, je ne vais pas exposer, vous m'avez mis dehors, je suis dehors. Voilà, mais on a pu voir des photos.
Bravo Daniel Buren, merci d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. On reste ensemble pour évoquer ensemble dans la deuxième partie votre carrière, votre œuvre. Pour l'instant, il est 12h30, c'est l'heure des informations. Bienvenue à nouveau Daniel Buren dans le studio des Midis de Culture. On va continuer à discuter ensemble de votre œuvre. Et pour recommencer, on va écouter Léa Weichgruss lire un extrait de L'espace littéraire de Maurice Blanchot.
L'objet n'annonce jamais qui il est, mais ce à quoi il sert. Il n'apparaît pas. Pour qu'il apparaisse, cela n'a pas été dit moins souvent, il faut qu'une rupture dans le circuit de l'usage, une brèche, une anomalie, le fasse sortir du monde, sortir de ses gonds. Et il semble alors que, n'étant plus, Ils deviennent son apparence, son image, ce qu'il était avant d'être chose utile ou valeur signifiante.
Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit ici Maurice Blanchot, qui explique que pour qu'un objet apparaisse, il faut qu'il y ait une brèche, une rupture, une anomalie dans le paysage. Ça, c'est quelque chose qui résonne avec votre œuvre, Daniel Buren.
Oui, d'autant plus que Maurice Blanchot, je relis de temps en temps des choses qui m'avaient tout à fait enthousiasmé à l'époque, et donc il fait partie de ces philosophes et écrivains qui m'ont beaucoup marqué quand j'avais entre 18 et 25 ans, et qu'effectivement cette phrase est magnifique, c'est comme énormément de penser dans son écriture et de sa volonté de décortiquer tout un système qui ont été vraiment des jalons pour des gens de ma génération.
Et à partir de 1975, vous commencez à créer ces fameuses cabanes éclatées qui vraiment incarnent cette idée de perturber l'environnement plus que de s'inscrire dans un environnement. Comment est-ce que vous les avez pensées, ces cabanes ?
Ça fait, comme toujours, c'est un peu compliqué. Enfin, rétrospectivement, je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire sur le moment, même si c'est les mêmes choses qui procèdent à un tel travail. En parler, c'est un peu plus difficile, c'est plus confus aussi, et c'est, à mon avis, pas tellement intéressant. Au départ de ces cabanes, on peut dire que c'est presque comme des souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose, tous les petits enfants... à partir de je sais pas quel âge, mais disons 5-6 ans, surtout s'ils peuvent vivre en dehors des quatre murs d'une ville et de pouvoir aller de temps en temps à la campagne, construisent des cabanes. C'est presque naturel. Et ça m'avait souvent frappé que ces constructions étaient à la fois intéressantes et en même temps elles étaient éphémères. Et elles avaient certaines qualités qu'on pouvait peut-être développer. Donc j'ai essayé de développer une des qualités principales. Elle s'appelait d'ailleurs toujours cabane éclatée. Et pourquoi éclatée ? C'est parce que, disons, en faisant quelque chose de très simple, disons un cube avec quatre murs. Ces quatre murs, ça fait une sorte de bloc. On perce ce bloc... On fait ce qui va devenir plus ou moins, on pourrait toujours les dénommer fenêtres et portes. Et on projette ces fenêtres, ces morceaux de découpe, etc., de façon directe et parallèle à cette cabane qui, elle, ce cube, donc, est en plein milieu de l'espace choisi. L'espace choisi, c'est un carré, c'est un rectangle, c'est la forme d'une salle d'exposition. Et tous ces éléments sont projetés sur le mur. Donc, elle est explosée. Et dès qu'on entre dans cette salle, on va se trouver, en fait, non pas devant, entre guillemets, une sculpture, et on va tourner autour, ce qui est le béaba de la plupart des sculptures, mais en face de quelque chose qu'on peut pénétrer, et dont les éléments qui manquent, qui permettent cette pénétration, sont, eux, explosés à la limite de la salle. Donc on se retrouve à la fois soit à l'intérieur de la cabane avec tous ces trous qui permettent de voir où sont partis les éléments qui manquent, ou tourner autour de cette chose d'origine qui est en fait un cube, et se trouver en sandwich entre ce qui manque dans le cube et ce qui est explosé sur les murs environnants. Et pour moi, c'était une façon de positionner dans l'espace quelque chose qui va être... évidemment transformé par cet espace, mais qui va aussi le transformer tout en lui laissant entièrement la possibilité de se promener où on veut. Et ensuite, j'ai développé ça avec des matériaux différents, avec des couleurs, avec l'électricité, etc., dont j'en ai fait quand même beaucoup. Quasiment jamais deux fois la même, mais beaucoup de choses très différentes, mais qui jouent sur ce même principe. Alors, c'est plus ou moins compliqué. C'est pas toujours des cubes parfaits, carrés ou des choses à base rectangulaire, mais c'est toujours exactement le même principe où les choses qui manquent sont explosées à l'extérieur et à la limite de l'espace qui est touché.
Et là, le spectateur joue un rôle actif aussi, et vous intégrez son point de vue, ou du moins vous questionnez le point de vue de la personne regarde.
Oui, c'est tout à fait juste, et en même temps, il n'y a pas un mode d'emploi. C'est-à-dire que la chose est faite, je sais qu'elle a certaines incidences et conséquences, mais je sais pas tout ça, je connais pas les gens qui viennent. Donc les gens doivent aussi inventer leur point de vue. Et ça, c'est vrai pour les choses qui sont, disons, beaucoup plus grandes, ou dans des espaces non fermés, ou peu fermés, pas vraiment comme une salle dans un musée ou dans une galerie. Mais dans tous les cas de figure, ça va être le visiteur qui va interpréter qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Rien du tout, et il s'en va tout de suite. Tourner autour, disparaître dans un angle fermé, faire une perspective qui va l'intéresser plus qu'une autre, mais rien de tout ça n'est précisé comme une obligation quelconque pour celui qui regarde. Donc il y a toujours dans tous ces travaux la plus grande liberté possible pour y accéder, et c'est surtout vrai dans les espaces ouverts. Évidemment, dans un musée, il y a déjà des portes, faut rentrer, on n'y peut rien. Mais quand on arrive dans l'espace où un travail se développe, il y a le plus possible la volonté que celui ou celle qui va rentrer va pouvoir faire ce qu'elle veut et se faire aussi son opinion. Et peut-être, si moi j'observe, et ça m'est arrivé dans des expositions qui durent quelques mois, comme des expositions dans un musée ou autre, voir justement sans m'en préoccuper ou en étant assez caché ou anonyme, comment les gens font avec ça? Où est-ce qu'ils mettent leurs yeux? Comment ils regardent? Ou comment ils marchent? Depuis 50 ans, c'est ce qui m'intéresse.
Et vous, votre point de vue évolue aussi a posteriori sur les œuvres?
Bien sûr. Mais il y a toujours cette volonté, c'est pas pour autant que ça fonctionne toujours, hein, mais il y a toujours cette volonté que prenez quelque chose que beaucoup de gens connaissent comme le travail des deux plateaux au Palais Royal. On entre dans cet espace très spécial à Paris qui est quasiment un îlot dans la ville. Alors là, on entre par là où l'architecture le permet. Il y a beaucoup d'entrées d'ailleurs dans l'ensemble du Palais Royal. Et on arrive sur cette cour d'honneur par plusieurs endroits, donc il n'y a même pas une seule façon d'y arriver. Et après, effectivement, c'est complètement ouvert, c'est-à-dire que il y en a qui vont préférer, voir ça depuis un angle, d'autres qui vont sauter sur les polygones. Il y a une foule, il suffit d'y aller un jour où il y a du monde, et c'est presque toujours le cas, même quand il pleut, mais s'il fait beau, c'est évidemment couvert de monde. On voit très bien que les gens utilisent ça à leur manière, pas seulement pour juste voir, mais aussi pour s'asseoir ou pour faire des choses. Ce qui veut vraiment dire que la cour d'honneur, en fin de compte, qui est sans doute, si on veut parler alors dans les termes les plus classiques, d'une sculpture, et une sculpture, ça prend généralement 3 mètres carrés au sol ou 10 mètres carrés, c'est déjà très grand. Celle-ci, elle prend 3000 mètres carrés, c'est donc gigantesque. Mais en fin de compte, ça prend 0 centimètre. On peut aller partout, absolument partout, jusque au-dessus des polygones qui sont les plus hauts. Donc, ça change complètement la perception. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a tellement de gens qui y vont, parce que personne ne les oblige de venir dans ce lieu dans Paris, qui d'ailleurs était complètement désertique c'était un parking, donc on n'allait pas se promener dans un parking, mais en fait il y avait très peu de monde dans les jardins du Palais Royal. Et depuis cette pièce, le jardin et la cour d'honneur sont très 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 visités.
Les fameuses colonnes de Buren, les deux plateaux dont vous parliez, c'est 1986, vous commencez à travailler en 1985, vous l'avez très bien décrite. Je voudrais rappeler que le projet, à ce moment-là, a soulevé aussi des critiques qui ont été balayées par les spectateurs. C'est comme si l'idée avait dérangé, mais que la vision concrète avait convaincu. Et j'y pensais là, en vous voyant décrire ces promeneurs que vous allez peut-être observer parfois, Daniel Buren. dans cet endroit, comme si finalement la réalité de l'œuvre avait su convaincre, là où l'idée, finalement, on ne convainc pas avec une idée, on convainc avec une...
Bah, surtout quand on ne la donne pas.
Vous ne l'avez pas donnée.
Ah non, on avait été très mauvais là-dessus d'ailleurs. Ça, c'était la première fois que je faisais un travail véritablement, entre guillemets, officiel, une commande d'État. Et il y avait d'ailleurs peu de gens qui avaient une expérience de ça, puisque c'était quand même un peu en désuétude depuis un siècle. Mais on n'avait fait strictement aucune séance, on n'avait fait aucun texte, rien n'a été diffusé en disant, bah voilà, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Non pas parce que c'était un mépris, mais parce qu'on ne savait même pas que c'était peut-être bien d'informer les gens qu'il va se passer là quelque chose, et pas non plus cette idée abstraite et complètement négative de dire... C'est donné à un artiste, personne connaissait tellement bien l'artiste en question, et c'est toute la cour d'honneur, et voilà, on travaille, et ce sera fini dans un an ou moins. Évidemment, je dirais que même cette attitude, dont j'ai fait partie, sans savoir ce qu'il fallait faire ou faire autre chose, peut avoir l'apparence de quelque chose de très agressif. Comme tout ce qui se passe dans la rue, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, non pas d'être agressif, mais d'avoir ce rapport avec un public qu'on ne connaît pas et qui est imprévisible. Et tout peut se passer. Et là, on a eu une belle résonance du public qui était évidemment très négative, parce qu'on a failli ne même pas pouvoir arriver jusqu'au bout de la construction de la pièce. Et comme j'avais qu'une position, c'est de dire vous pourrez critiquer quand c'est fini et avant, c'est absolument inacceptable. Et moi, c'est inacceptable si je vous dis que ça va être bien, j'en sais rien. Ce sera peut-être vous qui avez raison, que c'est impossible d'être là. D'ailleurs, j'avais dit, on peut faire une seule chose quand c'est fini. C'était le nouveau ministre qui était devenu le ministre de la Culture, Léotard. Et j'avais dit, écoutez, la seule façon de mettre tout le monde d'accord, il faut attendre un an. Si dans un an, cet endroit, qui était déjà pas très visité, devient un désert, c'est que c'est complètement raté et on peut les détruire.
Et on n'imagine plus Paris sans les colonnes de Buren. J'irai m'y promener avec émotion en repensant à cette discussion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Buren, pour ce dialogue très enrichissant. On se quitte en écoutant Répétition de The Fall. Cette émission a été préparée par Léa Weichgruss, Zoé Coupé, Lisa Dejode et Nina Gandara, à la réalisation Delphine Keravec et à la technique Anthony Thomasson.